Chapitre 2. Des bruits inquiétants commençaient à se répandre. On disait que le crédit de la banque était entamé. Le banquier avait beau affecter l'assurance avec ses clients, certains plus soupçonneux redemandèrent leurs fonds. M. Jeannin se sentit perdu. Il se défendit en désespéré, jouant de l'indignation, se plaignant avec hauteur, avec amertume, qu'on se défiât de lui. Il alla jusqu'à faire à d'anciens clients des scènes violentes qui le coulèrent définitivement dans l'opinion. Les demandes de remboursement affluèrent. Acculé, aux abois, il perdit complètement la tête. Il fit un court voyage, alla jouer ses derniers billets de banque dans une ville d'eau voisine, se fit tout rafler en un quart d'heure et revint. Son départ inopiné avait achevé de bouleverser la petite ville, où l'on disait déjà qu'il était en fuite. Madame Jeannin avait eu grand-peine à tenir tête à l'inquiétude furieuse des gens. Elle les suppliait de prendre patience, elle leur jurait que son mari allait revenir. Ils n'y croyaient guère, bien qu'ils voulussent y croire. Aussi, quand on sut qu'il était revenu, ce fut un soulagement général. Beaucoup ne furent pas loin de penser qu'ils s'étaient inquiétés à tort, et que les Jeannins étaient trop malins pour ne pas se tirer toujours d'un mauvais pas en admettant qu'ils y fussent tombés. L'attitude du banquier confirmait cette impression. Maintenant qu'il n'avait plus de doute sur ce qu'il lui restait à faire, il semblait fatigué mais très calme. Sur l'avenue de la gare, en descendant du train, il causa tranquillement avec quelques amis qu'il rencontra, de la campagne qui manquait d'eau depuis des semaines, des vignes qui étaient superbes, et de la chute du ministère qu'annonçaient les journaux du soir. Arrivé à la maison, il feignit de ne point tenir compte de l'agitation de sa femme, accourue auprès de lui, et qui lui racontait avec une volubilité confuse ce qui s'était passé pendant son absence. Elle tâchait de lire sur ses traits s'il avait réussi à détourner le danger inconnu. Elle ne lui demanda pourtant rien, par orgueil. Elle attendait qu'il lui en parlât le premier. Mais il ne dit pas un mot de ce qui les tourmentait tous deux. Il écarta silencieusement le désir qu'elle avait de se confier à lui et d'attirer ses confidences. Il parla de la chaleur, de sa fatigue, il se plaignit d'un mal de tête fou, et l'on se mit à table comme à l'ordinaire. Il causait peu, là, absorbé, le front plissé. Il tapotait des doigts sur la nappe. Il s'efforçait de manger, se sachant observé, et regardait avec des yeux lointains ses enfants intimidés par le silence, et sa femme raidie dans son amour-propre blessé, qui, sans le regarder, épiait tous ses gestes. Vers la fin du dîner, il sembla se réveiller. Il essaya de causer avec Antoinette et avec Olivier. Il leur demanda ce qu'ils avaient fait pendant son voyage. Mais il n'écoutait pas leurs réponses. Il n'écoutait que le son de leur voix. Et bien qu'il eût les yeux fixés sur eux, son regard était ailleurs. Olivier le sentit. Il s'arrêtait au milieu de ses petites histoires, et il n'avait pas envie de continuer. Mais chez Antoinette, après un moment de gêne, la gaieté avait pris le dessus. Elle bavardait comme une pie joyeuse, posant sa main sur la main de son père ou lui touchant le bras pour qu'il écoutât bien ce qu'elle lui racontait. M. Jeannin se taisait. Ses yeux allaient d'Antoinette à Olivier, et le pli de son front se creusait. Au milieu d'un récit de la fillette, il n'y tint plus. Il se leva de table et alla vers la fenêtre pour cacher son émotion. Les enfants plièrent leurs serviettes et se levèrent aussi. Madame Jeannin les envoya jouer au jardin. On les entendit aussitôt se poursuivre dans les allées en poussant des cris aigus. Madame Jeannin regardait son mari qui lui tournait le dos et elle allait autour de la table comme pour ranger quelque chose. Brusquement, elle se rapprocha de lui et lui dit, d'une voix étouffée par la peur que les domestiques n'entendissent et par sa propre angoisse, « Enfin, Antoine, qu'est-ce que tu as ? Tu as quelque chose. Si tu caches quelque chose, est-ce qu'il y a un malheur ? Est-ce que tu es souffrant ?» Mais M. Jeannin, encore une fois, l'écarta, haussant les épaules avec impatience, et dit d'un ton dur, « Non, non, je te dis, laisse-moi. » Elle s'éloigna indignée. Elle se disait, dans sa colère aveugle, qu'il pouvait bien arriver n'importe quoi à son mari, qu'elle ne s'en inquiéterait plus. M. Jeannin descendit au jardin. Antoinette continuait ses folies et houspillait son frère afin de le faire courir. mais l'enfant déclara tout à coup qu'il ne voulait plus jouer. Et il s'accouda sur le mur de la terrasse, à quelques pas de son père. Antoinette essaya de le taquiner encore, mais il la repoussa en boudant. Alors elle lui dit quelques impertinences, et puisqu'il n'y avait plus rien à faire ici pour s'amuser, elle rentra à la maison et se mit à son piano. Monsieur Jeannin et Olivier restèrent seuls. « Qu'est-ce que tu as, petit? Pourquoi ne veux-tu plus jouer ?» demanda le père doucement. « Je suis fatigué, papa. »« Bien, alors asseyons-nous un peu sur le banc, tous les deux. » Ils s'assirent. Une belle nuit de septembre. Le ciel limpide et obscur. L'odeur sucrée des pétunias se mêlait à l'odeur fade et un peu corrompue du canal sombre qui dormait au pied du mur de la terrasse. Des papillons du soir, de grands sphinx blonds, battaient des ailes autour des fleurs avec un ronflement de petits rouets. Les voix calmes des voisins, assis devant leur porte, de l'autre côté du canal, résonnaient dans le silence. Dans la maison, Antoinette jouait sur son piano des cavatines à fioritures italiennes. Monsieur Jeannin tenait la main d'Olivier dans sa main. Il fumait. L'enfant voyait dans l'obscurité qui lui dérobait peu à peu les traits de son père, la petite lumière de la pipe qui se rallumait, s'éteignait par bouffées, se rallumait, finit par s'éteindre tout à fait. Il ne causait point. Olivier demanda le nom de quelques étoiles. Monsieur Jeannin, assez ignorant des choses de la nature, comme presque tous les bourgeois de province, n'en connaissait aucun à part les grandes constellations que personne n'ignore. Mais il feignit de croire que c'était de celles-là que l'enfant s'informait, et il les lui nomma. Olivier ne réclama point. Il avait toujours plaisir à entendre et à répéter à mi-voix leurs beaux noms mystérieux. D'ailleurs, il cherchait moins à savoir qu'à se rapprocher instinctivement de son père. Ils se turent. Olivier, la tête appuyée au dossier du banc, la bouche ouverte, regardait les étoiles. Et il s'engourdissait. La tiédeur de la main de son père le pénétrait. Brusquement, cette main se mit à trembler. Olivier trouva cela drôle et dit d'une voix riante et ensommeillée « Oh, comme ta main tremble, papa !» Monsieur Jeannin retira sa main. Après un moment, Olivier, dont la petite tête continuait à travailler toute seule, dit « Est-ce que tu es fatigué aussi, papa ?»« Oui, mon petit. » La voix affectueuse de l'enfant reprit « Il ne faut pas tant te fatiguer, papa. » Monsieur Jeannin attira à lui la tête d'Olivier et l'appuya contre sa poitrine en disant « Mon pauvre petit !» Mais déjà les pensées d'Olivier avaient pris un autre cours. L'horloge de la tour sonnait 8 heures. Il se dégagea et dit « Je vais lire ». Le jeudi, il avait la permission de lire 1 heure après dîner, jusqu'au moment de se coucher. C'était son plus grand bonheur. Et rien au monde n'eût été capable de lui en faire sacrifier 1 minute. Monsieur Jeannin le laissa partir. Il se promena encore, de long en large, sur la terrasse obscure. Puis il rentra à son tour. Dans la chambre, autour de la lampe, les enfants et la mère étaient réunis. Antoinette cousait un ruban à un corsage, sans cesser un instant de parler ou de chantonner, au grand mécontentement d'Olivier, qui, assis devant son livre, les sourcils froncés et les coudes sur la table, s'enfonçait les poings dans les oreilles pour ne rien entendre. Madame Jeannin ravaudait des bas et causait avec la vieille bonne, qui, debout à côté d'elle, lui faisait le compte des dépenses de la journée et profitait de l'occasion pour bavarder. Elle avait toujours des histoires amusantes à raconter dans un argot impayable, qui les faisait éclater de rire et qu'Antoinette s'efforçait d'imiter. Monsieur Jeannin les regarda en silence. Personne ne fit attention à lui. Il resta indécis un moment, il s'assit, prit un livre, l'ouvrit au hasard, le referma, se leva. Décidément, il ne pouvait rester. Il alluma une bougie et dit « Bonsoir ». Il s'approcha des enfants, les embrassa avec effusion. Ils y répondirent distraitement, sans lever les yeux vers lui. Antoinette occupée de son ouvrage et Olivier de son livre. Olivier n'écarta même pas ses mains de ses oreilles et grogna un bonsoir ennuyé en continuant sa lecture. Quand il lisait, un des siens fut tombé dans le feu qu'il ne se serait pas dérangé. Monsieur Jeannin sortit de la chambre. Il s'attardait encore dans la salle à côté. Sa femme vint peu après, la bonne étant partie, pour ranger des draps dans une armoire. Elle fit semblant de ne pas le voir. Il hésita, puis vint à elle et dit « Je te demande pardon. Je t'ai parlé un peu brusquement tout à l'heure. » Elle avait envie de lui dire « Mon pauvre homme, je ne t'en veux pas. Mais qu'est-ce que tu as donc? Dis-moi donc ce qui te fait souffrir. » Mais elle dit, trop heureuse de prendre sa revanche, « Laisse-moi tranquille. Tu es d'une brutalité odieuse avec moi. Tu me traites comme tu ne traiterais pas une domestique. » Et elle continua sur ce ton, énumérant ses griefs, avec une volubilité âpre et rancunière. Il eut un geste lassé, sourit amèrement, et la quitta. Personne n'entendit le coup de revolver. Le lendemain seulement, quand on apprit ce qui s'était passé, les voisins se rappelèrent avoir perçu, vers le milieu de la nuit, dans le silence de la rue, un bruit sec comme un claquement de fouet. Ils n'y prirent pas garde. La paix de la nuit retomba aussitôt sur la ville, enveloppant dans ses plis lourds les vivants et les morts. Madame Jeannin, qui dormait, se réveilla une ou deux heures plus tard. Ne voyant pas son mari auprès d'elle, elle se leva inquiète, elle parcourut toutes les pièces, descendit à l'étage au-dessous, alla au bureau de la banque, qui était dans un corps de bâtiment contigu à la maison. Et là, dans le cabinet de Monsieur Jeannin, elle le trouva dans son fauteuil, écroulé sur la table de travail, au milieu de son sang, qui gouttait encore sur le plancher. Elle poussa un cri perçant, laissa tomber la bougie qu'elle tenait, et perdit connaissance. De la maison, on l'entendit. Les domestiques accoururent, la relevèrent, prirent soin d'elle, et portèrent le corps de M. Jeannin sur un lit. La chambre des enfants était fermée. Antoinette dormait comme une bienheureuse. Olivier entendit un bruit de voix et de pas. Il eût voulu savoir, mais il craignit de réveiller sa sœur, et il se rendormit. Le lendemain matin, la nouvelle courait déjà dans la ville avant qu'il susse rien. Ce fut la vieille bonne qui la leur apprit en larmoyant. Leur mère était hors d'état de penser à quoi que ce fût. Sa santé donnait des inquiétudes. Les deux enfants se trouvèrent seuls en présence de la mort. Dans ces premiers moments, leur épouvante était encore plus forte que leur douleur. Au reste, on ne leur laissa point le temps de pleurer en paix. Dès le matin, commencèrent les cruelles formalités judiciaires. Antoinette, réfugiée dans sa chambre, tendait toutes les forces de son égoïsme juvénile vers une pensée unique, seule capable de l'aider à repousser l'horreur qui la suffoquait, la pensée de son ami. Elle attendait sa visite d'heure en heure. Jamais il n'avait été plus empressé pour elle que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Elle ne doutait pas qu'il n'accourût pour prendre part à son chagrin. Mais personne ne vint, aucun mot de personne, aucune marque de sympathie. En revanche, dès la première nouvelle du suicide, des gens qui avaient confié leur argent au banquier se précipitèrent chez les Jeannin, forcèrent la porte et, avec une férocité impitoyable, firent des scènes furieuses à la femme et aux enfants. En quelques jours s'accumulèrent toutes les ruines, perte d'un être cher, perte de toute fortune, de toute situation, de l'estime publique, abandon des amis, écroulement total. Rien ne resta debout de ce qui les faisait vivre. Ils avaient, tous les trois, un sentiment intransigeant de pureté morale qui les faisait d'autant plus souffrir d'un déshonneur dont ils étaient innocents. Des trois, la plus ravagée par la douleur fut Antoinette, parce qu'elle en était le plus loin. Madame Jeannin et Olivier, si déchirés qu'ils fussent, n'étaient pas étrangers à ce monde de la souffrance. Pessimistes d'instinct, ils étaient moins surpris qu'accablés. La pensée de la mort avait toujours été pour eux un refuge. Elle l'était plus que jamais, maintenant. Ils souhaitaient de mourir. Lamentable résignation sans doute, mais pourtant moins terrible que la révolte d'un être jeune, confiant, heureux, aimant vivre, qui se voit brusquement acculé à ce désespoir sans fond ou à cette mort qui lui fait horreur. Antoinette découvrit d'un seul coup la laideur du monde. Ses yeux s'ouvrirent, elle vit la vie. Elle jugea son père, sa mère, son frère. Tandis qu'Olivier et Madame Jeannin pleuraient ensemble, elle s'isolait dans sa douleur. Sa petite cervelle désespérée réfléchissait sur le passé, le présent, l'avenir. Et elle vit qu'il n'y avait plus rien pour elle. Aucun espoir, aucun appui. Elle n'avait plus à compter sur personne. L'enterrement eut lieu, lugubre, honteux. L'Église avait refusé de recevoir le corps du suicidé. La veuve et les orphelins furent laissés seuls par la lâcheté de leurs anciens amis. À peine deux ou trois se montrèrent un moment, et leur attitude gênée fut plus pénible encore que l'absence des autres. Ils semblaient faire une grâce en venant, et leur silence était gros de blâme et de pitié méprisante. Du côté de la famille, ce fut bien pis. Non seulement il ne leur vint de là aucune parole consolante, mais des reproches amers. Le suicide du banquier, loin d'assourdir les rancunes, semblait à peine moins criminel que sa faillite. La bourgeoisie ne pardonne pas à ceux qui se tuent. Qu'on préfère la mort à la plus ignoble vie leur paraît monstrueux. Elle appellerait volontiers toutes les rigueurs de la loi sur celui qui semble dire « Il n'y a pas de malheur qui vaille celui de vivre avec vous ». Les plus lâches ne sont pas les moins empressés à taxer son acte de lâcheté. Et quand celui qui se tue lèse par-dessus le marché en se raturant de la vie leurs intérêts et leur vengeance, ils deviennent furieux. Pas un instant ils ne songeaient à ce que le malheureux Jeannin avait dû souffrir pour en arriver là. Ils eussent voulu le faire souffrir mille fois davantage. Et comme il leur échappait, ils reportaient sur les siens leur réprobation. Ils ne se l'avouaient pas, car ils savaient que c'était injuste. Mais ils ne l'en faisaient pas moins, car il leur fallait une victime. Madame Jeannin, qui ne semblait plus bonne à rien qu'à gémir, retrouvait son énergie quand on attaquait son mari. Elle découvrait maintenant combien elle l'avait aimé. Et ces trois êtres, qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils deviendraient le lendemain, furent d'accord pour renoncer à la dot de la mère, à leur fortune personnelle, afin de rembourser autant que possible les dettes du père. Et, ne pouvant plus rester dans le pays, ils décidèrent d'aller à Paris. Le départ fut comme une fuite. La veille au soir, un triste soir de la fin de septembre, les champs disparaissaient sous les grands brouillards blancs d'où surgissaient des deux côtés de la route à mesure qu'on avançait les squelettes des buissons ruisselant comme des plantes d'aquarium, ils allèrent ensemble dire adieu au cimetière. Ils s'agenouillèrent tous trois sur l'étroite margelle de pierre qui entourait la fosse fraîchement remuée. Leurs larmes coulaient en silence. Olivier avait le hoquet. Madame Jeannin se mouchait désespérément. Elle ajoutait à sa douleur, elle se torturait, à se répéter inlassablement les paroles qu'elle avait dites à son mari la dernière fois qu'elle l'avait vu vivant. Olivier songeait à l'entretien sur le banc de la terrasse. Antoinette songeait à ce qui adviendrait d'eux. Aucun n'avait l'ombre d'un reproche dans le cœur pour l'infortuné qui les avait perdus avec lui. Mais Antoinette pensait « Ah, cher papa, comme nous allons souffrir !» Le brouillard s'obscurcissait, l'humidité les pénétrait. Mais Madame Jeannin ne pouvait se décider à partir. Antoinette vit Olivier qui frissonnait, et elle dit à sa mère « Maman, j'ai froid !» Ils se levèrent. Au moment de s'en aller, Madame Jeannin se retourna une dernière fois vers la tombe. « Mon pauvre ami » fit-elle. Ils sortirent du cimetière dans la nuit qui tombait. Antoinette tenait dans sa main la main glacée d'Olivier. Ils rentrèrent dans la vieille maison. C'était leur dernière nuit dans le nid, où ils avaient toujours dormi, où leur vie s'était passée, et la vie de leurs parents. Ces murs, ce foyer, ce petit carré de terre, auquel s'étaient liées si indissolublement toutes les joies et les douleurs de la famille, qu'il semblait qu'ils fussent aussi de la famille, qu'ils fissent partie de leur vie, et qu'on ne pût les quitter que pour mourir. Leurs malles étaient faites. Ils devaient prendre le premier train du lendemain, avant que les boutiques des voisins fussent ouvertes. Ils voulaient éviter la curiosité et les commentaires malveillants. Ils avaient besoin de se serrer l'un contre l'autre, et pourtant chacun alla d'instinct dans sa chambre et s'y attarda. Ils restaient debout, sans bouger, ne pensant même pas à ôter leurs chapeaux et leurs manteaux, touchant les murs, les meubles, tout ce qu'ils allaient quitter, appuyant leur front contre les vitres, essayant de prendre et de garder en eux le contact des choses aimées. Enfin, chacun fit effort pour s'arracher à l'égoïsme de ses pensées douloureuses, et ils se réunirent dans la chambre de Madame Jeannin, la chambre familiale avec une grande alcôve au fond. C'était là qu'autrefois ils se réunissaient le soir, après dîner, quand il n'y avait pas de visite. Autrefois, cela leur semblait si loin déjà. Ils restèrent sans parler autour du maigre feu. Puis ils dirent la prière ensemble, agenouillés devant le lit. et ils se couchèrent très tôt, car il fallait être levé avant l'aube. Mais ils furent longtemps avant que le sommeil vînt. Vers 4 heures du matin, Madame Jeannin, qui toutes les heures avait regardé à sa montre s'il n'était pas temps de se préparer, alluma sa bougie et se leva. Antoinette, qui n'avait guère dormi, l'entendit et se leva aussi. Olivier était plongé dans un profond sommeil. Madame Jeannin le regarda avec émotion et ne put se décider à le réveiller. Elle s'éloigna sur la pointe des pieds et dit à Antoinette, ne faisant pas de bruit, que le pauvre petit jouisse de ses dernières minutes ici. Les deux femmes achevèrent de s'habiller et de finir les paquets. Autour de la maison planait le grand silence des nuits où il fait froid, et où tout ce qui vit, les hommes et les bêtes, s'enfoncent plus avidement dans le tiède sommeil. Antoinette claquait des dents. Son cœur et son corps étaient glacés. La porte d'entrée résonna dans l'air gelé. La vieille bonne, qui avait la clé de la maison, venait une dernière fois servir ses maîtres. Petite et grosse, le souffle court, et gênée par son embonpoint, mais singulièrement leste pour son âge, elle se montra avec sa bonne figure emmitouflée, le nez rouge et les yeux larmoyants. Elle fut désolée de voir que Madame Jeannin s'était levée sans l'attendre et qu'elle avait allumé le fourneau de la cuisine. Olivier s'éveilla comme elle entrait. Son premier mouvement fut de refermer les yeux et de se retourner dans ses couvertures pour se rendormir. Antoinette vint poser doucement sa main sur l'épaule de son frère et elle l'appela à mi-voix. « Olivier, mon petit, il est temps. » Il soupira, ouvrit les yeux, vit le visage de sa sœur penché vers le sien. Elle lui sourit mélancoliquement et lui caressa le front avec sa main. Elle répétait « Allons ». Il se leva. Ils sortirent de la maison, sans bruit, comme des voleurs. Chacun d'eux avait des paquets à la main. La vieille bonne les précédait, roulant leur malle sur une brouette. Ils laissaient presque tout ce qu'ils avaient. Ils n'emportaient, pour ainsi dire, que ce qu'ils avaient sur le corps et quelques vêtements. De pauvres souvenirs devaient leur être expédiés plus tard, par la petite vitesse. Quelques livres, des portraits, l'antique pendule, dont le battement leur semblait le battement même de leur vie. L'air était aigre. Personne n'était encore levé dans la ville. Les volets étaient clos, les rues vides. Ils se taisaient. La domestique seule parlait. Madame Jeannin cherchait à graver en elle, pour la dernière fois, ces images qui lui rappelaient tout son passé. À la gare, Madame Jeannin, par amour-propre, prit des secondes classes, bien qu'elle se fût promis de prendre des troisièmes. Mais elle n'eut pas le courage de cette humiliation en présence des 2 ou 3 employés du chemin de fer qui la connaissaient. Elle se faufila précipitamment dans un compartiment vide et s'y enferma avec le petit. Caché derrière les rideaux, il tremblait de voir apparaître une figure de connaissance. Mais personne ne se montra. La ville s'éveillait à peine à l'heure où il partait. Le train était désert. Il n'y avait que 3 ou 4 paysans et des bœufs qui, la tête passée par-dessus la barrière du wagon, mugissaient avec mélancolie. Après une longue attente, la locomotive siffla longuement et le train s'ébranla dans le brouillard. Les 3 émigrants écartèrent les rideaux et, le visage collé contre la vitre, regardèrent une dernière fois la petite ville dont la tour gothique se voyait à peine au travers du voile de brume. La colline couverte de chaume, les prairies blanches de givre et fumantes, c'était déjà un paysage de rêve, lointain, à peine existant. Et quand il eut disparu, à un détour de la voie, qui s'engageait dans une tranchée, sûr de n'être plus observé, ils ne se contraignirent plus. Madame Jeannin, son mouchoir appuyé sur sa bouche, sanglotait. Olivier s'était jeté sur elle, et la tête sur les genoux de sa mère, il lui couvrait les mains de larmes et de baisers. Antoinette, assise à l'autre coin du compartiment et tournée vers la fenêtre, pleurait silencieusement. Ils ne pleuraient pas tous 3 pour la même raison. Madame Jeannin et Olivier ne pensaient qu'à ce qu'ils laissaient derrière eux. Antoinette pensait bien davantage à ce qu'ils allaient trouver. Elle se le reprochait. Elle eût voulu s'absorber dans ses souvenirs. Elle avait raison de songer à l'avenir. Elle avait une vue plus exacte des choses que sa mère et son frère. Il se faisait des illusions sur Paris. Antoinette elle-même était loin de se douter de ce qui les y attendait. il n'y était jamais venu. Madame Jeannin avait à Paris une sœur richement mariée avec un magistrat, et elle comptait sur son aide. Elle était convaincue d'ailleurs que ses enfants, avec l'éducation qu'ils avaient reçue et leurs dons naturels, sur lesquels elle se trompait, comme toutes les mères, n'auraient point de peine à gagner honorablement leur vie. L'impression d'arrivée fut sinistre. Dès la gare, ils furent consternés par la bousculade des gens dans la salle des bagages et le tumulte des voitures enchevêtrées devant la sortie. Il pleuvait, on ne pouvait trouver de fiacre. Il fallut courir loin, les bras cassés par les paquets trop lourds, qui les forçaient à s'arrêter au milieu de la rue, au risque d'être écrasés ou éclaboussés par les voitures. Aucun cocher ne répondait à leurs appels. Enfin, ils réussirent à en arrêter un, qui menait une vieille patache d'une saleté repoussante. En hissant leur paquet, ils laissèrent tomber un rouleau de couverture dans la boue. Le facteur de la gare qui portait leur mal et le cocher abusèrent de leur ignorance pour se faire payer double. Madame Jeannin avait donné l'adresse d'un de ces hôtels médiocres et chers, achalandés par les provinciaux qui, parce qu'un de leurs grands-pères y alla 30 ans auparavant, continuent d'y aller malgré les inconvénients. On les y écorcha. L'hôtel était plein, disait-on, on les empila tous ensemble dans un étroit local, en leur comptant le prix de 3 chambres. Au dîner, ils voulurent faire des économies en évitant la table d'hôte. Ils se commandèrent un modeste menu qui leur coûta aussi cher et qui les affama. Dès les premières minutes de l'arrivée, leurs illusions étaient tombées. Et dans cette première nuit d'hôtel, où, entassés dans une chambre sans air, ils n'arrivaient pas à dormir, ayant froid, ayant chaud, ne pouvant respirer, tressautant au bruit des pas dans le corridor, des portes qu'on fermait, des sonneries électriques, le cerveau meurtri par le roulement incessant des voitures et des lourds camions, ils eurent l'impression terrifiée de cette ville monstrueuse où ils étaient venus se jeter et où ils étaient perdus. Le lendemain, Madame Jeannin courut chez sa sœur, qui habitait un luxueux appartement boulevard Haussmann. Elle espérait, sans le dire, qu'on leur offrirait de les loger dans la maison jusqu'à ce qu'ils fussent hors d'affaire. Le premier accueil suffit à la désabuser. Les Poyet de Lorme étaient furieux de la faillite de leurs parents. La femme, surtout, qui craignait qu'on ne la leur jetât à la tête et que cela ne nuisît à l'avancement de son mari, trouvait de la dernière indécence que la famille ruinée vint s'accrocher à eux et les compromettre encore plus. Le magistrat pensait de même, mais il était assez brave homme. Il eût été plus secourable si sa femme n'y eût veillé, ce dont il était bien aise. Madame Poyet de Lorme reçut sa sœur avec une froideur glaciale. Madame Jeannin en fut saisie. Elle se força à déposer sa fierté. Elle laissa entendre à mots couverts les difficultés où elle se trouvait et ce qu'elle eût souhaité des Poyet. On fit comme si on n'avait pas entendu. On ne les retint même pas à dîner pour le soir. On les invita cérémonieusement pour la fin de la semaine. Encore l'invitation ne vint-elle pas de Madame Poyet, mais du magistrat, qui, un peu gêné lui-même de l'accueil de sa femme, tâcha d'en atténuer la sécheresse. Il affectait de la bonhomie, mais on sentait qu'il n'était pas très franc et qu'il était très égoïste. Les malheureux Jeannin revinrent à l'hôtel, sans oser échanger leurs impressions sur cette première visite. Ils passèrent les jours suivants à errer dans Paris, cherchant un appartement, harassés de monter les étages, écœurés de voir ces casernes où s'entassent les corps, ces escaliers malpropres, ces chambres sans lumière, si tristes après la grande maison de province. Ils étaient de plus en plus oppressés, et c'était toujours le même ahurissement dans les rues, dans les magasins, dans les restaurants, qui les faisait duper par tous. Tout ce qu'ils demandaient coûtait un prix exorbitant. On eût dit qu'ils avaient la faculté de transformer en or tout ce qu'ils touchaient, en or qu'ils devaient payer. Ils étaient d'une maladresse inimaginable et sans force pour se défendre. Si peu qu'il lui resta d'espérance à l'égard de sa sœur, Madame Jeannin se forgeait encore des illusions sur le dîner où ils étaient invités. Ils s'y préparèrent avec des battements de cœur. Ils furent reçus en invités et non pas en parents, sans qu'on eût fait d'ailleurs d'autres frais pour le dîner que ce ton cérémonieux. Les enfants virent leurs cousins à peu près de leur âge, qui ne furent pas plus accueillants que le père et la mère. La fillette, élégante et coquette, leur parlait en zézayant d'un air de supériorité polie, avec des manières affectées et sucrées qui les déconcertaient. Le garçon était assommé de cette corvée du dîner avec les parents pauvres, et il fut aussi maussade que possible. Madame Poyet Delorme, droite et raide sur sa chaise, semblait toujours, même quand elle offrait d'un plat, faire la leçon à sa sœur. Monsieur Poyet Delorme parlait de niaiseries pour éviter qu'on parlât de choses sérieuses. L'insipide conversation ne sortait pas de ce qu'on mange, par crainte de tout sujet intime et dangereux. Madame Jeannin fit un effort pour amener l'entretien sur ce qui lui tenait à cœur. Madame Poyet Delorme l'interrompit net par une parole insignifiante. Elle n'eut plus le courage de recommencer. Après le dîner, elle obligea sa fille à jouer un morceau de piano pour montrer son talent. La petite, gênée, mécontente, joua horriblement. Les Poyet, ennuyés, attendaient qu'elle eût fini. Madame Poyet regardait sa fille avec un plissement de lèvres ironique. Et comme la musique durait trop, elle se remit à causer de choses indifférentes avec Madame Jeannin. Enfin, Antoinette, qui avait complètement perdu pied dans son morceau, et qui s'apercevait avec terreur qu'à un certain passage, au lieu de continuer, elle avait repris au commencement, et qu'il n'y avait pas de raison pour qu'elle n'en sortît jamais, coupa court et termina par deux accords qui n'étaient pas justes et un troisième qui était faux. Monsieur Poyet dit « Bravo !» et il demanda le café. Madame Poyet dit que sa fille prenait des leçons avec Pugnot. La demoiselle qui prenait des leçons avec Pugnot dit « Très jolie, ma petite !» et elle demanda où Antoinette avait étudié. La conversation se traînait. Elle avait épuisé l'intérêt des bibelots du salon et des toilettes des dames Poyet. Madame Jeannin se répétait « C'est le moment de parler, il faut que je parle !» Et elle se crispait. Comme elle faisait un grand effort et allait se décider enfin, Madame Poyet glissa incidemment, d'un ton qui ne cherchait pas à s'excuser, qu'ils étaient bien fâchés, mais qu'ils devaient sortir vers 9h30. Une invitation qu'ils n'avaient pu remettre. Les Jeannin, froissés, se levèrent aussitôt pour partir. On fit mine de les retenir. Mais un quart d'heure après, quelqu'un sonna à la porte. Le domestique annonça des amis des Poyet, des voisins, qui habitaient à l'étage au-dessous. Il y eut des coups d'œil échangés entre Poyet et sa femme, et des chuchotements précipités avec les domestiques. Poyet, bredouillant un prétexte quelconque, fit passer les Jeannin dans une chambre à côté. Il voulait cacher à ses amis l'existence et surtout la présence chez lui de la famille compromettante. On laissa les Jeannin seuls dans la chambre sans feu. Les enfants étaient hors d'eux de ces humiliations. Antoinette avait les larmes aux yeux. Elle voulait qu'on partît. Sa mère lui résista d'abord, puis, l'attente se prolongeant, elle se décida. Ils sortirent. Dans l'antichambre, Poyet, averti par un domestique, les rattrapa, s'excusant par quelques paroles banales. Il feignit de vouloir les retenir, mais on voyait qu'il avait hâte qu'ils fussent partis. Il les aida à passer leurs manteaux, les poussa vers la porte avec des sourires, des poignées de main, des amabilités à voix basse, et il les mit dehors. Rentrés dans leur hôtel, les enfants pleurèrent de rage. Antoinette trépignait, jurait qu'elle ne mettrait plus les pieds jamais chez ces gens. Madame Jeannin prit un appartement au quatrième, dans le voisinage du jardin des plantes. Les chambres donnaient sur les murs lépreux d'une cour obscure. La salle à manger, et le salon, car Madame Jeannin tenait à avoir un salon, sur une rue populeuse. Tout le jour passaient des tramways à vapeur et des corbillards, dont la file allait s'engouffrer dans le cimetière d'Ivry. Des Italiens pouilleux, avec une racaille d'enfants, flânaient sur les bancs ou se disputaient aigrement. On ne pouvait laisser les fenêtres ouvertes à cause du bruit. Et le soir, quand on revenait chez soi, il fallait fendre le flot d'une populace affairée et puante, traverser les rues encombrées, aux pavés boueux, passer devant une répugnante brasserie installée au rez-de-chaussée de la maison voisine et à la porte de laquelle des filles énormes et pouffies, aux cheveux jaunes, plâtrées et grasses de fard, dévisageaient les passants avec de sales regards. Le maigre argent des Jeannin s'en allait rapidement. Il constatait chaque soir, avec un serrement de cœur, la brèche plus large qui s'ouvrait à leur bourse. Ils essayaient de se priver, mais ils ne savaient pas. C'est une science qu'il faut bien des années d'épreuves pour apprendre, quand on ne l'a point pratiquée depuis l'enfance. Ceux qui ne sont pas économes, de nature, perdent leur temps à vouloir l'être. Dès qu'une nouvelle occasion de dépenser se présente, ils y cèdent. L'économie est toujours pour la prochaine fois. Et quand par hasard ils gagnent ou croient avoir gagné la plus petite chose, ils se hâtent de faire servir le gain à des dépenses dont le total finit par le dépasser 10 fois. Au bout de quelques semaines, les ressources des Jeannin se trouvaient épuisées. Madame Jeannin dut abdiquer tout reste d'amour-propre et elle alla, à l'insu de ses enfants, faire une demande d'argent à Poyet. Elle s'arrangea de façon à le voir seul dans son cabinet et elle le supplia de lui avancer une petite somme en attendant qu'ils eussent trouvé une situation qui leur permît de vivre. L'autre, qui était faible et assez humain, après avoir essayé de remettre sa réponse à plus tard, céda. Il avança 200 francs dans un moment d'émotion dont il ne fut pas le maître. Il s'en repentit d'ailleurs aussitôt après, surtout quand il lui fallut en convenir avec Madame Poyet, qui fut exaspérée contre la faiblesse de son mari et contre son intrigante de sœur. Les Jeannin passèrent leur journée à courir dans Paris pour trouver une place. Madame Jeannin, avec ses préjugés de bourgeoise riche de province, ne pouvait admettre pour elle et pour ses enfants d'autre profession que celle qu'on nomme libérale, sans doute parce qu'on y meurt de faim. Même, elle n'eût point permis que sa fille se plaçât comme institutrice dans une famille. Il n'y avait que les professions officielles, au service de l'État, qui ne lui parussent pas déshonorantes. Il fallait trouver moyen qu'Olivier achevât son éducation pour devenir professeur. À l'égard d'Antoinette, Madame Jeannin eût voulu qu'elle entrât dans une institution d'enseignement pour y donner des leçons ou au conservatoire pour avoir un prix de piano. Mais les institutions auxquelles elle s'adressa étaient toutes pourvues de professeurs qui avaient de bien autres titres que sa fille, avec son pauvre petit brevet élémentaire. Et quant à la musique, il fallut reconnaître que le talent d'Antoinette était des plus ordinaires, comparé à celui de tant d'autres qui ne réussissaient même pas à percer. Ils découvrirent l'effroyable lutte pour la vie et la consommation insensée que Paris fait de talents petits et grands dont elle n'a que faire. Les deux enfants prirent un découragement, une défiance exagérée de leur valeur. Ils se crurent médiocres. Ils s'acharnaient à se le prouver, à le prouver à leur mère. Olivier, qui, dans son collège de province, n'avait point de peine à passer pour un aigle, était anéanti par ses épreuves. Il semblait avoir perdu possession de tous ses dons. Au lycée où on le mit, où il avait réussi à obtenir une bourse, son classement fut si désastreux dans les premiers temps qu'on lui enleva sa bourse. Il se crut tout à fait stupide. En même temps, il avait l'horreur de Paris, de ce grouillement d'être, de l'immoralité dégoûtante de ses camarades, de leurs conversations ignobles, de la bestialité de quelques-uns d'entre eux qui ne lui épargnaient pas d'abominables propositions. Il n'avait même pas la force de leur dire son mépris. Il se sentait avili par la seule pensée de leur avilissement. Il se réfugiait avec sa mère et sa sœur dans les prières passionnées qu'ils faisaient ensemble chaque soir, après chaque journée nouvelle de déceptions et d'humiliations intimes, qui semblait une souillure à ses cœurs innocents et qu'ils n'osaient même pas se raconter. Mais, au contact de l'esprit d'athéisme latent qu'on respire à Paris, la foi d'Olivier commençait à s'effriter, sans qu'il s'en aperçût, comme une chaux trop fraîche tombe des murs au souffle de la pluie. Il continuait de croire, mais autour de lui, Dieu mourait. Sa mère et sa sœur poursuivaient leurs courses inutiles. Madame Jeannin était retournée voir les Poyet, qui, désireux de se débarrasser d'eux, leur offrirent des places. Il s'agissait pour Madame Jeannin d'entrer comme lectrice chez une vieille dame qui passait l'hiver dans le Midi. Pour Antoinette, on lui trouvait un poste d'institutrice chez une famille de l'ouest de la France qui vivait toute l'année à la campagne. Les conditions n'étaient pas trop mauvaises, mais Madame Jeannin refusa. Plus encore qu'à l'humiliation de servir elle-même, elle s'opposait à ce que sa fille y fût réduite et surtout à ce qu'Antoinette fût éloignée d'elle. Si malheureux qu'ils fussent, et justement parce qu'ils étaient malheureux, ils voulaient rester ensemble. Madame Poyet le prit très mal. Elle dit que quand on n'avait pas les moyens de vivre, il ne fallait pas faire les orgueilleux. Madame Jeannin ne put s'empêcher de lui reprocher son manque de cœur. Madame Poyet dit des paroles blessantes sur la faillite et sur l'argent que Madame Jeannin lui devait. Elles se séparèrent, brouillées à mort. toutes relations furent cassées. Madame Jeannin n'eut plus qu'un désir, rendre l'argent qu'elle avait emprunté. Mais elle ne le pouvait pas. Les vaines démarches continuèrent. Madame Jeannin alla voir le député et le sénateur de son département, à qui M. Jeannin avait maintes fois rendu service. Partout, elle se heurta à l'ingratitude et à l'égoïsme. Le député ne répondit même pas aux lettres, et quand elle vint sonner à sa porte, fit dire qu'il était sorti. Le sénateur lui parla avec une commisération grossière de sa situation, qu'il imputa à ce misérable Jeannin, dont il flétrit durement le suicide. Madame Jeannin prit la défense de son mari. Le sénateur dit qu'il savait bien que ce n'était pas par malhonnêteté, mais par bêtise, que le banquier avait agi, que c'était un niais, un pauvre hanneton, ne voulant jamais en faire qu'à sa tête, sans demander conseil à personne et sans écouter aucun avertissement. S'il s'était perdu seul, on n'aurait rien à dire, ce serait bien fait. Mais, sans parler des autres ruines, qu'il eût jeté sa femme et ses enfants dans la misère, et qu'ensuite il les planta là, les laissant se débrouiller comme il pourrait, cela, c'était affaire à Madame Jeannin de le lui pardonner si elle était une sainte. Mais lui, sénateur, qui n'était pas un saint, S-A-I-N-T, qui se flattait d'être seulement un homme saint, S-A-I-N, un homme saint, sensé et raisonnable, lui n'avait aucun motif pour pardonner. L'individu qui se suicidait en pareil cas était un misérable. La seule circonstance atténuante qu'on put plaider pour Jeannin, c'était qu'il n'était pas tout à fait responsable. Là-dessus, il s'excusa auprès de Madame Jeannin de s'être exprimé d'une façon un peu vive sur le compte du mari. Il en donna pour cause la sympathie qu'il avait pour elle, et ouvrant son tiroir, il lui offrit un billet de 50 francs, une aumône qu'elle refusa. Elle chercha une place dans les bureaux d'une grande administration. Ses démarches étaient maladroites et sans suite. Elle prenait tout son courage pour en faire une. Puis elle revenait si démoralisée que pendant plusieurs jours, elle n'avait plus la force de bouger. Et, quand elle se remettait en marche, il était trop tard. Elle ne trouva pas plus de secours auprès des gens d'église, soit que ceux-ci n'y visent pas leur avantage, soit qu'ils se désintéressassent d'une famille ruinée dont le père était notoirement anticlérical. Tout ce que Madame Jeannin réussit à trouver, après 1000 efforts, fut une place de professeur de piano dans un couvent, métier ingrat et ridiculement payé. Afin de gagner un peu plus, elle faisait de la copie, le soir, pour une agence. On était très dur pour elle. Son écriture et son étourderie, qui lui faisaient sauter un mot, une ligne, malgré son application, elle pensait à tant d'autres choses, lui attirèrent des observations blessantes. Il arriva qu'après s'être brûlé les yeux et courbaturé à écrire jusqu'au milieu de la nuit, elle se vit refuser sa copie. Elle rentrait bouleversée. Elle passait des journées à gémir sans prendre aucun parti. Depuis longtemps, elle souffrait d'une maladie de cœur que les épreuves avaient aggravée et qui lui inspirait de sinistres pressentiments. Elle avait parfois des angoisses, des étouffements, comme si elle allait mourir. Elle ne sortait plus sans avoir dans sa poche son nom et son adresse écrits, au cas où elle viendrait à tomber dans la rue. Qu'arriverait-il si elle disparaissait ? Antoinette la soutenait comme elle pouvait, affectant une tranquillité qu'elle n'avait pas. Elle la suppliait de se ménager, de la laisser travailler à sa place. Mais Madame Jeannin mettait les derniers restes de son orgueil à ce qu'au moins sa fille ne connût point les humiliations dont elle avait à souffrir. Elle avait beau s'épuiser et réduire encore leurs dépenses, ce qu'elle gagnait ne suffisait pas à les faire vivre. Il fallut vendre les quelques bijoux qu'on avait conservés. Et le pire fut que cet argent, dont on avait tant besoin, fut volé à Madame Jeannin le jour même qu'elle venait de le toucher. La pauvre femme, qui était d'une étourderie perpétuelle, s'était avisée, pour utiliser sa course, d'entrer au bon marché qui se trouvait sur son passage. C'était le lendemain, la fête d'Antoinette, et elle voulait lui faire un petit cadeau. Elle tenait son porte-monnaie à la main afin de ne pas le perdre. Elle le déposa machinalement une seconde sur un comptoir, tandis qu'elle examinait un objet. Quand elle voulut le reprendre, le porte-monnaie avait disparu. Ce fut le dernier coup. Peu de jours après, un soir étouffant de la fin d'août, une buée grasse d'étuve traînait pesamment sur la ville. Madame Jeannin rentra de son agence de copie, où elle avait eu un travail pressé à livrer. En retard pour le dîner, et voulant économiser les 3 sous de l'omnibus, elle s'était exténuée à revenir trop vite, de peur que ses enfants ne fussent inquiets. Quand elle arriva à son quatrième étage, elle ne pouvait plus parler ni respirer. Ce n'était pas la première fois qu'elle rentrait dans cet état. Les enfants avaient fini par ne plus s'en étonner. Elle se força à s'asseoir aussitôt à table avec eux. Ils ne mangeaient ni l'un ni l'autre, écœurés par la chaleur. Il leur fallait faire effort pour avaler avec dégoût quelques bouchées de viande, quelques gorgées d'eau fade. Pour laisser à leur mère le temps de se remettre, ils ne causaient pas. Ils n'avaient pas envie de causer. Ils regardaient la fenêtre. Soudain, Madame Jeannin agita les mains, se cramponna à la table, regarda ses enfants, gémit et s'affaissa. Antoinette et Olivier se précipitèrent juste à temps pour la recevoir dans leurs bras. Ils étaient comme fous et criaient, suppliaient. « Maman, ma petite maman !» Mais elle ne répondait plus. Ils perdirent la tête. Antoinette serrait convulsivement le corps de sa mère, l'embrassait, l'appelait. Olivier ouvrit la porte de l'appartement et cria « Au secours !» La concierge grimpa l'escalier, et quand elle vit ce qui était, elle courut chez un médecin du voisinage. Mais lorsque le médecin arriva, il ne put que constater que c'était fini. La mort avait été immédiate, heureusement pour Madame Jeannin. Mais qui pouvait savoir ce qu'elle avait eu encore le temps de penser dans ces dernières secondes, en se voyant mourir et en laissant ses enfants dans la misère, seule. Seule pour porter l'horreur de la catastrophe, seule pour pleurer, seule pour veiller aux soins affreux qui suivent la mort. La concierge, bonne femme, les aidait un peu, et du couvent où Madame Jeannin donnait des leçons, vinrent quelques paroles de froide sympathie. Les premiers moments furent d'un désespoir que rien ne peut exprimer. La seule chose qui les sauva fut l'excès même de ce désespoir, qui fit tomber Olivier dans de véritables convulsions. Antoinette en fut distraite de sa propre souffrance. Elle ne pensa plus qu'à son frère, et son profond amour pénétra Olivier, l'arracha au dangereux transport où la douleur l'eût entraîné. Enlacés l'un à l'autre, près du lit où reposait leur mère, à la lueur d'une veilleuse, Olivier répétait qu'il fallait mourir, mourir tous deux, mourir tout de suite. Et il montrait la fenêtre. Antoinette sentait aussi ce désir funeste, mais elle luttait contre, elle voulait vivre. « À quoi bon ?»« Pour elle, » dit Antoinette. Elle montrait sa mère. « Elle est toujours avec nous. » « Pense, après tout ce qu'elle a souffert pour nous, il faut lui épargner la pire des douleurs, celle de nous voir mourir malheureux. » « Ah !» reprit-elle avec emportement. « Et puis, il ne faut pas se résigner ainsi. Je ne veux pas. Je me révolte à la fin. Je veux que tu sois heureux un jour. »« Jamais. Si, tu seras heureux. Nous avons eu trop de malheurs. Cela changera. Cela changera, il le faut. Tu te feras ta vie, tu auras une famille, tu auras du bonheur, je le veux, je le veux. Comment vivre? Nous ne pourrons jamais. Nous pourrons. Que faut-il? Vivre jusqu'à ce que tu puisses gagner ta vie, je m'en charge. Tu verras, je saurai. Ah, si maman m'avait laissé faire, j'aurais pu déjà. Que vas-tu faire? Je ne veux pas que tu fasses des choses humiliantes. Tu ne pourrais pas, d'ailleurs. Je pourrais. Et il n'y a rien d'humiliant, pourvu que ce soit honnête, à gagner sa vie en travaillant. Ne t'inquiète pas, je t'en prie. Tu verras, tout s'arrangera, tu seras heureux. Nous serons heureux, mon Olivier. Elle sera heureuse par nous. Les deux enfants suivirent seuls le cercueil de leur mère. D'un commun accord, ils avaient décidé de ne rien dire aux Poyet. Les Poyet n'existaient plus pour eux. Ils avaient été trop cruels pour leur mère, ils avaient contribué à sa mort. Et quand la concierge leur avait demandé s'ils n'avaient pas d'autres parents, ils avaient répondu « Personne ». Devant la fosse nue, ils prièrent la main dans la main. Ils se raidissaient dans une intransigeance et un orgueil désespéré qui leur faisait préférer la solitude à la présence de parents indifférents et hypocrites. Ils revinrent à pied au milieu de cette foule étrangère à leur deuil, étrangère à leurs pensées, étrangère à tout leur être, et qui n'avait de commun avec eux que la langue qu'ils parlaient. Antoinette donnait le bras à Olivier. Ils prirent dans la maison, au dernier étage, un tout petit appartement, deux chambres mansardées, une antichambre minuscule qui devait leur servir de salle à manger, et une cuisine grande comme un placard. Ils auraient pu trouver mieux dans un autre quartier, mais il leur semblait qu'ici, ils étaient encore avec leur mère. La concierge leur témoignait un intérêt apitoyé. Mais bientôt elle fut reprise par ses propres affaires et personne ne s'occupa plus d'eux. Pas un locataire de la maison ne les connaissait. Et ils ne savaient même pas qui logeait à côté d'eux. Antoinette obtint de remplacer sa mère comme professeur de musique au couvent. Elle chercha d'autres leçons. Elle n'avait qu'une idée, élever son frère, jusqu'à ce qu'il entrât à l'école normale. Elle avait décidé cela toute seule. Elle avait étudié les programmes, elle s'était informée. Elle avait tâché d'avoir aussi l'avis d'Olivier, mais il n'en avait point. Elle avait choisi pour lui. Une fois à l'école normale, il serait sûr de son pain pour le reste de sa vie et maître de son avenir. Il fallait qu'il y arrivât. Il fallait vivre à tout prix jusque-là. C'était 5 à 6 années terribles. On en viendrait à bout. Cette idée prit chez Antoinette une force singulière. Elle finit par la remplir tout entière. La vie de solitude et de misère qu'elle allait mener, et qu'elle voyait distinctement se dérouler devant elle, n'était possible que grâce à l'exaltation passionnée qui s'empara d'elle, sauver son frère. Que son frère fût heureux si elle ne pouvait plus l'être. Cette petite fille de 17 à 18 ans, frivole et tendre, fut transformée par sa résolution héroïque. Il y avait en elle une ardeur de dévouement et un orgueil de la lutte que personne n'eût soupçonné, elle-même moins que tout autre. À cet âge de crise de la femme, ces premiers jours de printemps fiévreux, où les forces d'amour gonflent l'être et le baignent, comme un ruisseau caché qui bruit sous le sol, l'enveloppe, l'inonde, le tiennent dans un état d'obsession perpétuelle, l'amour prend toutes les formes. Il ne demande qu'à se donner, à s'offrir en pâture. Tous les prétextes lui sont bons, et sa sensualité innocente et profonde est prête à se muer en tous les sacrifices. L'amour fit d'Antoinette la proie de l'amitié. Son frère, moins passionné, n'avait pas ce ressort. D'ailleurs, c'était pour lui qu'on se dévouait, ce n'était pas lui qui se dévouait, ce qui est bien plus aisé et plus doux quand on aime. Au contraire, il sentait peser sur lui le remords de voir sa sœur s'épuiser de fatigue. Il le lui disait. Elle répondait « Ah, mon pauvre petit, mais tu ne vois donc pas que c'est cela qui me fait vivre? Sans cette peine que tu me donnes, quelle autre raison aurais-je ?» Il le comprenait bien aussi. Lui aussi, à la place d'Antoinette, il eût été jaloux de cette chère peine. Mais être la cause de cette peine, son orgueil et son cœur en souffraient. Et quel poids écrasant pour un être faible comme lui que la responsabilité dont on le chargeait, l'obligation de réussir, puisque sa sœur avait mis sur cette carte sa vie entière comme enjeu. Une telle pensée lui était insupportable, et loin de redoubler ses forces, l'accablait par moments. Cependant, elle l'obligeait malgré tout à résister, à travailler, à vivre, ce dont il n'eût pas été capable sans cette contrainte. Il avait une prédisposition à la défaite, au suicide peut-être. Peut-être y eût-il sombré si sa sœur n'eût voulu pour lui qu'il fût ambitieux et heureux. Il souffrait de ce que sa nature était combattue, et pourtant c'était le salut. Lui aussi traversait un âge de crise, cet âge redoutable où succombent des milliers de jeunes gens qui s'abandonnent aux aberrations de leur sens et, pour 2 ou 3 ans de folie, sacrifient irrémédiablement toute leur vie. S'il avait eu le temps de se livrer à sa pensée, il fût tombé dans le découragement ou dans la dissipation. Chaque fois qu'il lui arrivait de regarder en lui, il était repris par ses rêveries maladives, par le dégoût de la vie, de Paris, de l'impure fermentation de ces millions d'êtres qui se mêlent et pourrissent ensemble. Mais la vue de sa sœur dissipait ce cauchemar, et puisqu'elle ne vivait que pour qu'il vécût, il vivrait, oui, il serait heureux malgré lui.